Si je regarde les titres des précédentes étapes, la première, c'était la volonté de commencer, la seconde, le goutte à goutte ou la trombe, et aujourd'hui, dans la troisième étape, le titre est celui-ci, faut-il des techniques ? La question des préparations spirituelles à la prière contemplative. Sainte Thérèse d'Avila considère la prière contemplative comme une relation à Dieu et non pas une récitation. Quant à celui qui n'aurait pas encore commencé à faire oraison, je le supplie pour l'amour de Dieu de ne pas se priver d'un si grand bien, dit-elle. Ici, il n'y a rien à craindre, mais tout à espérer. Personne ne l'a pris en vain pour ami. Or, l'oraison mentale n'est, à mon avis, qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimé. La prière contemplative signifie donc être présent au Seigneur. Ce n'est pas une chose que nous faisons, ce n'est pas une chose que nous accomplissons, mais c'est une simple façon d'être avec, d'être intensément conscient du Seigneur. Alors, si vous regardez les titres de notre petite réflexion ce matin, premièrement, la préparation spirituelle, deuxièmement, ce que nous pouvons encore faire personnellement, et puis il y aura un troisièmement, à partir de ces efforts initiaux, Dieu va former l'âme. Donc, premièrement, la préparation spirituelle. Il y a des aspects matériels, évidemment, c'est-à-dire c'est important de disposer d'un endroit tranquille autant qu'on peut, une pièce quelque part, un coin de prière, ou bien simplement tourner une chaise face à une fenêtre, si elle s'ouvre sur un beau paysage, ou encore se tourner vers une icône, une croix, une image, qui nous permettent de nous concentrer plus profondément sur le Seigneur. Mais en devenant habituelle, la prière contemplative, la prière intérieure, peut se pratiquer absolument n'importe où et pendant tout temps libre, comme l'attente d'un ami, comme ce commerce intime d'amitié dont parle Thérèse. Les supports de la prière, tels que l'utilisation d'une image, l'utilisation d'un lieu particulier, ne sont pas des fins en soi, mais des moyens en vue d'une fin qui est Dieu. C'est peut-être important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vous proposent des techniques et la mise en œuvre scrupuleuse de techniques qui fait qu'on prend le moyen pour la fin. Mais les moyens sont en vue d'une fin qui est Dieu. Et par rapport à cela, eh bien, il faut se détacher de tout ce qui pourrait être trop formel, trop connu. On a tendance à s'accrocher à ce qui est connu, donc à entrer dans des habitudes, ou encore de s'accrocher à des consolations ou à des sentiments qu'on a déjà eus dans la prière en cherchant à les reproduire. Mais il faut se détacher, le détachement vis-à-vis des choses matérielles comme des choses spirituelles est essentiel dans la relation à Dieu. Et Dieu nous mènera de toute façon à marcher sans support et simplement en croyant seulement en lui. Donc il faut toujours vérifier que nous nous détachons de tout. Je cite encore Saint Jean de la Croix, « Car encore qu'il soit nécessaire au commençant d'avoir ces fermes moyens, néanmoins, ce doit être en telle sorte qu'il passe par eux sans s'y arrêter toujours. Autrement, il n'arriverait jamais au terme, lequel n'est pas comme les moyens éloignés et n'a rien à démêler avec eux. Tout ainsi que les degrés de l'escalier n'ont rien de commun avec le terme ou le haut de la montée, dont ils sont les moyens. Et si celui qui monte nous laissait les degrés, les marches en arrière jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et s'il voulait s'arrêter sur une marche, sur un degré, il ne parviendrait et ne monterait jamais à la paisible et agréable demeure du terme. Voilà, une image qui n'est pas trop compliquée à comprendre. Et donc, monter toujours plus haut et ne pas s'accrocher à ce qui a été déjà vécu, sachant qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Dans les préparations spirituelles et les aspects matériels, encore cette chose, une position confortable pour la prière est nécessaire. Parce que si on est dans l'inconfort, ça va augmenter les distractions et entraîner un changement constant de position qui pourra nous empêcher de nous abandonner plus facilement. En revanche, si nous prenons trop nos aises, il est facile aussi de s'endormir dans la prière d'oraison, surtout quand on est fatigué. La posture recommandée, c'est de s'asseoir le dos droit contre le dossier d'une chaise, les pieds posés à plat sur le sol, les mains posées sur les genoux. Mais si vous avez une autre position qui emporte votre préférence ou semble naturelle ou normale pour vous, eh bien alors elle est la bonne, évidemment. Un carnet pour noter toute idée qui se présente immédiatement après la prière peut être précieux. Avoir à portée de la main un petit carnet avec un petit crayon, et parce que chaque âme est menée de façon unique. Donc, quelques notes, quelquefois, sont une aide pour discerner la manière dont l'esprit nous guide, et pour des échanges avec des amis ou avec quelqu'un avec qui nous faisons le point de temps en temps, un accompagnateur spirituel. Alors, deuxièmement, le fameux problème des distractions. Je ne sais pas qui a eu l'idée un jour d'introduire la question des distractions dans la prière dans la liste des péchés. Vous savez, ça fait quelque chose que tout le monde pouvait accuser. Mon père, j'ai des distractions, je m'accuse d'avoir des distractions dans la prière. Ça n'a jamais été un péché, car les distractions font toujours partie de la condition humaine. La chose importante, c'est de ne pas être excessivement préoccupé par les distractions, car alors l'agitation trouble la tranquillité intérieure qui est nécessaire. Il faut commencer à vous recueillir, non à force de bras, dit Thérèse, mais avec suavité, afin de jouir de la paix d'une manière plus constante. Notre responsabilité, c'est d'être fidèle à la prière et de consacrer un moment régulier au Seigneur chaque jour. Le reste dépend de Dieu. Si la totalité de la période de prière est pleine de distractions, ou encore si elle est aride, sèche, cela n'a aucune importance. Dieu regarde dans nos cœurs et voit nos intentions. Et l'esprit ne devrait pas s'attarder sur les distractions, ou à l'inverse sur la concentration qu'on a pu vivre, mais être ramené doucement à Dieu chaque fois que l'esprit s'égare, grâce à une phrase, à un mot d'adoration, un regard de nouveau sur une image, ou juste par un rappel intérieur du sens de ce qui est saint. Si on a une distraction, on va pas faire une maladie. Quand on s'en aperçoit, on revient à la pensée de Dieu, on se recentre sur le Seigneur, et c'est tout. L'esprit actif est habitué à être actif, et Thérèse d'Avila a dit que ce balai des pensées ressemble à une folle du logis, dit-elle. Une folle du logis. On peut aussi la représenter sous les traits d'un enfant curieux qui court d'une chose à une autre. On est un peu comme ça, et donc on a une difficulté à vraiment s'arrêter et à rester en Dieu. On peut aussi comparer la prière contemplative au fait de regarder s'écouler un paisible cours d'eau étincelant dans la lumière. De temps en temps, il pourrait y avoir des feuilles, des branches ou des autres débris qui flottent sur la surface et qui sont des distractions. Mais si vous avez fait l'expérience, c'est assez rigolo quand on se trouve à côté d'un fleuve qui coule tranquillement, c'est beau. C'est... Puis alors, il y a des choses qui flottent et immanquablement, notre attention est attirée par les choses qui flottent et c'est ça qu'on regarde. Et donc, on se fixe sur les distractions qui flottent à la surface. On les observe, mais inutile de faire quoi que ce soit. Seulement rester calme et serein devant leur passage. Voilà, vous comprenez, le plus important, c'est le fleuve qui coule à l'intérieur. Ce n'est pas les choses qui flottent en surface. Si de réels problèmes se présentent à l'esprit, ce qui arrive souvent lorsque nous sommes détendus, intéressant ça, hein, ce qui arrive souvent quand nous sommes détendus, il y a des choses qui remontent. Notez dans un coin de l'esprit que vous vous en occuperez immédiatement après la prière. Hein. Si vous songez à ce que vous allez mettre sur le feu ce midi, eh bien, si vous avez la bonne recette, notez-la si vous voulez, mais vous en occuperez après. Et faites-le, mais n'interrompez pas la prière, à moins, bien sûr, qu'il y ait urgence. C'est-à-dire, ne vous levez pas pour aller... Non, restez en prière. Notez pour vous en débarrasser d'une certaine façon. La lecture d'ouvrages spirituels est une part importante aussi du développement de l'âme et profite énormément à la pratique de la prière. C'est autre chose, évidemment, mais avoir un livre spirituel dont on lit quelques pages de temps en temps, qui nous nourrit spirituellement, peut aider aussi à développer l'oraison. Elle inspire et meut le cœur en l'aidant à s'élancer plus facilement vers Dieu. Voilà quelques notes donc sur la préparation spirituelle de la prière d'oraison. D'autres notes encore, un peu en vrac, qu'est-ce qu'on peut encore faire personnellement? Donc on va parler, après avoir parlé de la préparation spirituelle, on va parler de la discipline, on va parler des intentions, on va parler des attitudes. La discipline, pour la prière d'oraison, on peut la lister sous 4 points. Le premier, réserver un horaire régulier et un lieu au silence et à la solitude. Un horaire régulier, si c'est possible. Un lieu au silence et à la solitude. Deuxièmement, fidélité à la prière. Indépendamment du fait que nous en ressentons l'envie ou non. Indépendamment du fait que nous en ressentions l'envie ou non. Si on n'a pas envie d'y aller, pas envie de prier, on veut être fidèle et on se met à notre temps d'oraison qu'on a programmé. Fidélité. Troisièmement, devenir conscient de sa responsabilité. Il est attendu de nous de coopérer au développement du trésor divin confié à nos soins. Ne nous laissons pas abuser par nous-mêmes ou par autrui en pensant que nous nous livrons à quelque extravagance paresseuse ou à quelque perte de temps lorsque nous pratiquons la prière contemplative. Au contraire, il faut que nous voyions l'importance capitale que ça peut avoir pour notre développement spirituel et pour la fructification de tout ce que Dieu nous a confié. Dans la sphère spirituelle, être est plus important que faire. Mais ce principe spirituel ne suppose pas une attitude paresseuse, par ailleurs, dans les autres domaines de la vie terrestre. Ce n'est pas parce qu'on attache plus d'importance à l'être que pour autant on va se tourner les pouces dans les choses concrètes. Au contraire, on va se coltiner avec la réalité. Quatrième petite réflexion sur la discipline, la concentration de l'attention, qui est l'entraînement à être présent à Dieu au-dedans de nous. Présent à Dieu au-dedans de nous. Ce qu'on a dit la dernière fois, une des caractéristiques de la prière d'oraison, c'est de rejoindre la présence intime de Dieu en nous, par opposition à la pensée de Dieu comme éloignée de nous, à l'extérieur de nous. Donc cela requiert apaisement habituel de nos facultés, silence de l'esprit agité, rassembler les affects rétifs en un point, ce point repos tout au fond de nous, où nous savons que le Seigneur nous attend toujours patiemment. Une autre direction, si vous voulez, sur ce que nous pouvons faire personnellement, rassembler sous le mot l'intention. L'intention comprend, premièrement, chercher celui qui donne, non pas ses dons. chercher Dieu seulement pour lui-même et non pour de simples expériences de prière ou des consolations spirituelles. Il y a des gens qui s'imaginent que quand ils font des expériences extravagantes, extraordinaires, c'est vraiment le signe que Dieu est là. Non, en fait, ils sont en train de s'attacher peut-être à des dons de Dieu, en tout cas à des ressentis, et non pas à Dieu lui-même. Il n'existe pas une bonne ou une mauvaise prière. Cela ne s'évalue pas en fonction du ressenti, en fonction des sentiments ressentis dans la prière. Ce qui se produit ou ne se produit pas dans la prière n'importe pas autant que ce que nous devenons pareil à Dieu. Pas confondre. Ce que nous ressentons ou ce que nous comprenons de ce qui se produit n'importe pas autant que ce que nous devenons et ce qui nous échappe. Mais ce que nous devenons, c'est une divinisation intérieure de plus en plus profonde. C'est Dieu qui agit. La façon dont nous vivons et agissons le reste de la journée est plus révélatrice d'une authentique maturation spirituelle que toutes les consolations qui peuvent se produire dans la prière. Deuxièmement, désirer ne faire qu'un avec Dieu. Il s'agit d'une union d'amour provoquée par le perfectionnement progressif de notre volonté jusqu'à ce qu'elle soit assimilable à la volonté divine. En avoir le désir lui-même, c'est une grâce de Dieu qui l'attire à l'âme. Le désir de Dieu est une disposition pour s'unir à lui. En premier lieu, il faut noter que si l'âme cherche Dieu, son bien-aimé la cherche bien encore davantage, dit Thérèse. Donc désirer ne faire qu'un avec Dieu, nous unir à lui, et troisièmement, le terme devenir comme Dieu, croître dans tous ses attributs en s'en imprégnant et en les vivant consciemment, en faisant par là même une part réelle de nous-mêmes. Regardez l'année de la miséricorde que nous venons de traverser pour nous approprier cet attribut central de Dieu qui est sa miséricorde, pour l'intégrer et devenir nous-mêmes miséricordieux. Les qualités divines doivent être pratiquées pour qu'elles soient intériorisées et effectuent une transformation permanente. Elles doivent être pratiquées ensuite, une fois que nous les avons reçus. Troisième petit point, l'attitude. L'attitude, bon, mais ces mots sont placés là, mais ce n'est pas forcément très important. Premièrement, la croyance dans l'inhabitation divine, c'est-à-dire l'habitation divine à l'intérieur de nous-mêmes, la croyance dans son amour pour nous, et répondre par la foi en cet amour. Une vie de prière, c'est la foi en acte. Les vertus se fortifient par la pratique. Donc nous pratiquons la foi à chaque fois que nous nous mettons à prier. Nous sommes bien obligés de poser un acte de foi et nous développons, nous fortifions notre foi. Deuxièmement, attente, patiente, dans l'espérance. C'est l'espoir vivant dans les promesses du Christ. À celui qui m'aime, je me révélerai. Donc on attend que Dieu se révèle plus profondément. Nous espérons en ce que Dieu donnera, ce que Dieu fera. Troisième attitude, l'abandon du moi. Et rendre amour pour amour par-delà le ressenti. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Le don de soi est en réponse au don d'amour de Dieu, dans le désir d'être un instrument entre ses mains, et l'acceptation de la volonté de Dieu, sans essayer de le convaincre de la nôtre. L'acceptation nous fait désirer renoncer à contrôler les choses dans la sphère spirituelle de notre vie, car Dieu seul forme l'âme. Ça, c'est très très important. Renoncer à contrôler les choses dans la sphère spirituelle de notre vie. Dieu seul forme l'âme. Et donc nous avançons, même si nous ne comprenons pas, même si nous ne saisissons pas, nous ne voyons pas comment ni vers quoi nous avançons, du moment que nous nous livrons à cet exercice de l'oraison chaque jour. Dieu nous tire vers lui. Quatrième attitude, l'humilité, la vérité, la connaissance de soi. Dans l'humilité est nécessaire à tous les stades du cheminement intérieur à l'âme. Cinquièmement, ouverture, réceptivité, se rendre approchable et vulnérable, adaptable, flexible, non rigide, ouvert au changement, se laisser conduire par Dieu dans une confiance et une foi enfantine. Sixièmement, gratitude pour tous les dons de Dieu, son amour, la beauté de la création, la vie humaine, par lesquels nous grandissons dans la vie divine. Septièmement, conscience d'être dans la présence de Dieu. Écouter avec le cœur développe la perception intérieure, la connaissance intuitive, la vision, car Dieu est un Dieu caché qui vient à nous par des voies ordinaires de la vie courante. Donc, le fait de faire oraison affine en nous cette possibilité de découvrir ensuite Dieu qui vient à nous sous le voile de l'ordinaire de la vie courante. Enfin, troisièmement, à partir de tous ces efforts initiaux, c'est Dieu qui va former l'âme. Vivre les attributs divins forme l'âme à la posture divine, à l'attitude divine. Dieu ne se tient pas à distance de ses enfants, mais se penche jusqu'à notre niveau, comme un père se penche sur le sol pour jouer avec ses petits. Donc ça nous apprend aussi à nous pencher vers les autres, à reprendre cette attitude de Dieu. Parfois, l'infusion des dons divins se fait sentir par les sens, mais d'autres fois, et la plupart du temps, il passe complètement inaperçu, complètement inaperçu. Par conséquent, se soucier excessivement des consolations temporaires ou des expériences fabuleuses de prière peut se révéler en fait être une distraction, car cela tend à centrer davantage l'attention sur le moi que sur Dieu, sur le nombril que sur la présence de Dieu. Il faut que le cœur et l'esprit soient attentifs à Dieu, en accord avec sa volonté, réceptif, silencieux, calme, tandis que Dieu transmet ses biens spirituels depuis sa surabondance jusqu'à notre vacuité. On ne peut saisir ou exiger les dons divins, l'âme peut seulement les recevoir avec gratitude. L'union d'amour à Dieu et la participation finale à la relation d'amour de la Trinité sont la raison de notre création et l'accomplissement du plan de Dieu. L'union à Dieu, définitivement, éternellement. La participation finale à cette relation d'amour de la Trinité, pénétrée dans la relation d'amour qui est entre le Père, le Fils, dans l'Esprit, sont la raison de notre état de créature, de notre création, et l'accomplissement du plan de Dieu sur nous. Donc suivre la voie contemplative nous permet, dans une certaine mesure, de goûter déjà cette joie de participation à l'être même de Dieu, déjà durant notre existence terrestre, déjà dès maintenant. Le centre de l'âme, c'est Dieu, dit Thérèse, et quand elle y sera arrivée, elle connaîtra Dieu, l'aimera et jouira de lui. Comme la volonté de tous deux n'est qu'une, ainsi l'opération de Dieu et la sienne ne seront qu'une. Parce que, comme elle est ici faite une même chose avec lui, elle est en quelque façon Dieu par participation. Dieu par participation. Notre filiation divine prend une épaisseur parce qu'elle participe vraiment à la nature divine. Saint Jean de la Croix réaffirme la bonne nouvelle de l'Écriture. Les plus grandes promesses nous ont été données afin que vous deveniez ainsi participants de la nature divine, dit la deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 4. C'est pas rien. Ce devenir spirituel, tissé dans la trame même de notre vie quotidienne, n'est pas toujours évident. Rester calme et silencieux dans la présence de Dieu accroît notre conscience intérieure, développe en nous un goût de ce qui est saint et nous aide à reconnaître la petite voix tranquille. Développe en nous aussi le désir du silence. Peu à peu, nous apprenons à renoncer à notre volonté, ce qui nous permet d'offrir le fiat nécessaire à l'union. La volonté de s'abandonner humblement à Dieu, sans être excessivement soucieux des résultats, est au principe de notre développement spirituel et devrait constituer notre attitude dans la prière. Thérèse dit encore, l'âme doit alors se remettre entre les mains de Dieu pour qu'il puisse faire d'elle ce qu'il voudra, avec le plus complet désintéressement de son avancement et la plus complète résignation au bon vouloir de sa majesté. Deux personnes profondément amoureuses aiment à se retrouver ensemble dans le silence. Le sentiment de la présence l'un de l'autre et de leur union intérieure. Lorsque ceci se produit dans la prière, entre Dieu et l'âme, la pensée discursive, la raison, raison raisonnante, pourra se sentir laissée de côté. L'entendement humain, la raison raisonnante, sert à recevoir des informations, à les examiner, à les analyser, à les faire porter à sa réflexion, puis à les digérer et à les stocker. Mais quand il s'agit de la connaissance divine, ou de l'illumination divine qui est présente et s'accroît par la maturation dans l'amour divin, ce processus habituel de connaissance est contourné. La pensée discursive pourra essayer de distraire ou d'interrompre l'âme, ou de se plaindre, comme Marthe le fit de Marie. Mais, toutes les puissances étant mortes ou endormies, l'amour reste vivant sans comprendre, cependant, comment il opère. Par la volonté de Dieu, il opère d'une manière si extraordinaire qu'il devient une seule chose avec le Seigneur même de l'amour, qui est Dieu. Il opère avec une pureté très grande. Rien ne le trouble, ni les sens, ni les puissances. Je veux dire l'entendement et la mémoire. La volonté n'a pas non plus conscience d'elle-même. Ou encore, Saint Jean de la Croix dit, « De là vient que, comme la sagesse de cette contemplation est langage de Dieu à l'âme, de pur esprit à l'esprit pur, tout ce qui est moins qu'esprit, comme sont les sens, ne le peuvent percevoir, et ainsi cela leur est caché. Et ils ne le savent, ni ne le peuvent dire, ni n'en ont envie, puisqu'ils ne le voient. » Alors ça ne veut pas dire pour autant que il faut se complaire dans le contournement de l'analyse rationnelle, justement en tombant dans un penchant qui s'attache plutôt à ce qui serait irrationnel. Mais ça veut dire que la connaissance divine, la relation à Dieu qui nous transforme, est au-delà de ce que la raison peut en saisir. Et le processus habituel de connaissance est contourné, comme dit Peggy Wilkinson, et c'est pas étonnant donc que nous entrions dans l'inconnaissance. Nous avons l'impression de ne plus savoir où nous en sommes, où nous allons. C'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on avance, que Dieu nous fait entrer dans sa grande lumière qui est obscurité pour nous, qui nous aveugle tellement elle est grande. Donc voilà, quelques notes sur cette question. Faut-il des techniques? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une question très 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 présente. Prenez par exemple les stages de pleine conscience et autres stages de spiritualité qui sont proposés tout partout et qui affectent maintenant nos centres spirituels. Eh bien, il était bon de regarder quelles sont les préparations spirituelles à la prière contemplative, dans les aspects matériels, dans la question du problème des distractions, de la discipline, de l'intention, de l'attitude, pour nous redire que ce ne sont simplement que des préparation des marches qui nous mènent plus haut pour laisser Dieu agir en nous, et que c'est cela, cette action de Dieu en nous qui est l'essentiel.